Pourquoi vous continuez à participer à ces instances ? Et ils y étaient très attachés. C'était assez paradoxal, mais c'était intéressant de voir qu'il y avait cet attachement à ces espaces où ils peuvent aussi échanger entre eux. Alors Pascal Houbron, est-ce que ce décalage entre ce que ces espaces de concertation proposent et les attentes des citoyens, vous ressentez aussi ce tirage ou ce paradoxe ?
Bien sûr, on le ressent régulièrement quand on est dans la concertation. Alors qu'est-ce que ça veut dire concertation ? Ça n'a peut-être pas tout à fait le même sens. Quand on est citoyen qui participe à un comité de quartier et un élu local dans un conseil municipal, la concertation, souvent pour le conseiller municipal, c'est quand on a effectivement déjà regardé le sens du projet, quand on a commencé à construire quelque chose et qu'on le présente ensuite aux habitants. Bon. Et souvent, le citoyen, lui, voudrait être totalement en amont. Alors, c'est ce qu'on va tenter cela dans un projet d'urbanisme au domaine du chapitre, donc dans un des quartiers de Biorel. On va partir de la feuille blanche. Mais je puis vous expliquer que les élus ne comprennent pas qu'on puisse partir de la feuille blanche avec les habitants. Parce que y a un certain nombre de points, ou d'objectifs en tout cas, d'intérêt général, là, pour le tout, collectif, qu'on veut définir. Mais il n'est pas dit que les habitants ne vont pas avoir non plus ces mêmes points de convergence. Alors, on peut, je crois, partir de la feuille blanche tout en expliquant les choses qui sont non négociables. Ce qui n'est non négociable, c'est qu'il va se passer quelque chose. Voilà. Donc, il y a un certain nombre de choses sur lesquelles on le dit avant, on explique les choses en amont. Quand on a mis en place les comités de quartier, ben, c'était mon message. Vous n'êtes pas un conseil municipal bis. Vous êtes là pour nous donner un certain nombre d'orientations, pour nous alerter parfois, pour participer aussi, donc effectivement, dans votre quartier, mais pas pour prendre la place de l'élu. Et l'élu ne prend pas non plus votre place. Donc voilà, il faut que les choses soient bien définies en amont. Alors évidemment, après, chacun a sa perception, mais déjà, si les règles du jeu sont données dès le départ, eh bien, on doit pouvoir mieux travailler, plus efficacement en tout cas.
Et l'USPAN, vous aussi, notamment avec ces maisons citoyennes que vous avez mis en place, vous arrivez à travailler sur des projets très en amont pour la définition peut-être même d'objectifs de devenir d'évolution d'un quartier ou de vie à l'échelle d'un quartier.
Une des maisons citoyennes est située en quartier prioritaire de la ville et donc a fait l'objet de la création d'un conseil citoyen qui est tout à fait important. C'est évident qu'il faut amorcer les choses. Et d'ailleurs, nous avons été élus sur des propositions, sur un programme. Et qui a ce programme, il repose aussi sur une philosophie, enfin, je veux dire, sur des valeurs, sur pourquoi on fait ça. Hein. C'est encore une fois, on construit pas du logement pour étaler du béton. Ça n'a aucun sens. On le fait parce que ça y a une fonction sociale du logement et puis du peuplement, puis de la qualité de vie, etc. Et donc, avec nos concitoyens, au départ, nous avons du personnel municipal qui anime les deux maisons citoyennes et on a un projet d'une troisième, c'était ce sur quoi on s'était entendu avec les concitoyens, si je puis dire, et un coordinateur. Et nous faisons travailler aussi quelques éléments de la vie associative qui proposent un certain nombre d'activités, mais nous avons proposé aux habitants du quartier et des autres quartiers de venir, parce que ça n'est pas un enfermement, surtout pas, de participer à la réalisation. Alors ça peut être des choses très très simples. Au début, nous avons fait des réunions où on a invité tous les habitants du quartier en mettant, d'abord on a fait on a déposé dans les boîtes aux lettres un questionnaire et on a fait une analyse du rendu de ces questionnaires. Puis ensuite, on a rassemblé les habitants pour leur dire, ben voilà, vous avez proposé ça, etc. On peut travailler, on peut vous soutenir, vous aider, mais vous allez être acteur. Mmh. Alors, et ça peut être des petits projets, ça peut être autour de la cuisine, de la pâtisserie. Ils ont inventé un jour de nous faire une écharpe tricotée sur 2 km pour faire un lien physique et en temps symbolique au moment du Téléthon. Nous les a encouragés et il n'y a pas de petits projets. Et il n'y a que des projets fédérateurs qu'on puisse construire ensemble. Et après, on a un travail en lien avec la DRAC et avec l'éducation nationale autour de la culture et des arts de la rue, un programme CLEAC, pour inciter nos concitoyens à se saisir culturellement de tous les outils qui existent dans notre société, dans notre République, pour à la fois se sentir mieux personnellement quand ils sont peut-être un petit peu refermés sur eux-mêmes, mais aussi complètement ouverts dans des relations avec les autres. Mmh. Et encore une fois, il peut se passer des choses, et c'est le cas dans ces maisons citoyennes, mais ça n'est pas exclusif et refermé sur un quartier. Mmh. Tout le monde peut venir participer à ce travail d'élaboration.
Et devenir acteur sur des petites choses, et après c'est un peu le pied de la pyramide, on peut aller aussi plus loin.
Et après, ça dépend un peu comment nous aussi, élus, nous portons les choses pour que ça ne soit pas facteur de frustration, mm-hmm. Que ça ne soit pas considéré comme étant mineur. Je ne crois pas que dans notre société, le fait de monter des projets ensemble soit mineur. Et même de choisir la couleur des choses, c'est pas mineur. Et dans la démocratie participative, par exemple sur les projets du urbanisme ou de logement, nous, quand on a été élus, il y avait des coups partis comme projet. Mmh. Ça ne nous a pas empêchés de faire des réunions avec les riverains en disant mais voilà, nous, on ne peut pas revenir sur telle chose, puisque de toute façon, le coup est déjà parti, le permis de construire est déjà signé. Ce n'était pas nous, c'était comme ça. Mais on a pu amender certains projets à partir de réflexions des habitants. Mais aussi il faut aussi être complètement honnête dans la relation avec nos concitoyens, c'est de dire ça c'est possible, ça ne l'est pas, ça
c'est
relève de l'intérêt particulier.
Il faut que les règles du jeu soient très claires dès le début.
Voilà, et une politique publique d'intérêt général, c'est pas l'addition de demandes individuelles. Mmh. Et nous sommes peut-être pas toujours, on a nos défauts, nous les élus, mais chacun, citoyen ou élu, peut porter des contradictions. Et il faut qu'on arrive à les analyser, les poser à plat, sans s'entretuer pour autant.
Oui, il faut le souligner. Je vous propose qu'on fasse une petite pause musicale, et ensuite on écoutera la chronique d'Emmanuel, et on se posera, on changera d'échelle, on va passer du local au plus national. On écoute Ali Farka Touré.
Bye.
Caro. Vous êtes toujours dans ton libre jusque 21h et nous continuons à parler de démocratie avec mes deux invités ce soir, Luce Panne, députée maire de Sotteville-lès-Rouen, et Pascal Houbron, maire de Billorel. Mais c'est l'heure d'écouter la voix d'Emmanuel. Alors Emmanuel, une chronique toujours aujourd'hui comme d'habitude.
Oui. Une chronique sur... enfin, ça pourrait s'analyser comme étant une démocratie, mais je sais pas, il faut... Ah. J'ai écrit ça à partir d'un film de Jean-Luc Godard. Ça s'appelle « Ce serait ». Ce serait. Ce serait sur l'écran, sur le mur. Ce serait sur le mur plutôt que sur l'écran. Une image continue, des images continues. Des images coupées en continu. Une suite d'images coupées et continues. Une voix. Des voix. Une voix avec d'autres voix, des voix mêlées, des voix chuchotées, des voix tues. Des voix mêlées, des voix tues. Ce serait une histoire, des histoires, une histoire continue, le temps même, tous les temps, tout le temps, des histoires, une image, des images, au mur ou sur l'écran, une histoire, des histoires en continu, ce serait passer devant, entendre, voir, ce serait passer devant, entendre, voir, ce serait un peu plus, ou un peu moins, ce serait un instant, ou plus, ce serait le temps même du mouvement, ou plus. Ce serait passer devant, partir, revenir et passer encore. Ce serait des instants, des temps, des voix, des images. Ce serait l'histoire simplement, simplement une histoire, soit devant, soit dedans, soit passant, soit s'arrêtant. Ce serait comme l'air, sans cesse nouveau, aspiré en dedans. Ce serait comme l'air un mouvement. Ce serait de l'air du temps, des images, des mouvements, des voix, des histoires. Ce serait le temps et soit en dedans, ce serait par instant, en pensant, une histoire continue de toutes les histoires que le temps compose et joue. Ce serait s'asseoir, passer, s'étendre, rester. Ce serait une image, une voix, un lieu peut-être. Ce serait une image, ce serait une voix. Ce serait le lieu où être.
Merci Emmanuel. Alors j'en fais mon interprétation pour faire une transition. Ouais. Ce serait un lieu où être comme ces places publiques qui
Exactement.
Sont occupées depuis quelques semaines. Ce sont des écrans, ceux des chaînes d'information en continu qui nous montrent ces discussions, ces voix, ces histoires que l'on entend, ces personnes qui sont assises sur ces places, parfois debout, qui discutent de démocratie, de vivre ensemble. Nuit debout, c'est un mouvement qui, depuis le mois de mars d'ailleurs, qui vient interroger d'une certaine manière la pratique démocratique, puisque on a reçu une personne qui participait à Rouen, on a eu un reportage qui a été fait également sur place, et ce qu'on a entendu, c'est que les gens semblaient avoir une soif de démocratie, de parler de la chose publique, du vivre ensemble, qu'est-ce qui fait lien, qu'est-ce qui ne fait pas lien. Et j'aimerais avoir votre regard à vous sur ce mouvement Nuit Debout, tel qu'il se passe ici à Rouen, mais aussi ailleurs, à Paris, place de la République, Pascal Houbron.
C'est moi qui commence, donc.
Oui, j'essaye d'alterner.
D'abord, je voulais dire que j'ai apprécié le texte, parce que j'avais l'impression, effectivement, que c'était aussi nous, les élus, qui voyons beaucoup de monde passer, beaucoup d'histoires humaines, à la fois dans notre bureau, mais aussi dans la rue, sur les marchés, partout, il y a des tranches de vie comme ça, et en permanence, donc toutes nos permanences, etc. Et voilà, c'est le temps qui va vite aussi, et on perçoit bien là qu'il y a des vies qui ont besoin d'être aidées, écoutées, etc. Et voilà, c'était le sentiment que j'en avais. Alors, effectivement, il y a ce mouvement spontané, ce qui n'a pas été construit, il est arrivé un peu comme cela. Et en tout cas, les élus ne l'ont pas vu arriver, qui s'est organisé autour de règles plus ou moins formalisées. Je ne sais qui. Je crois qu'il y a de la gestuelle
oui,
pour dire qu'on est d'accord.
Pas très radiophonique, bon, mais oui, on peut.
Voilà, on peut faire des gestes, en tout cas pour dire qu'on est d'accord ou pas d'accord. Mais du coup, on reconstruit des règles, même si celles qui existent ne les satisfait pas particulièrement. Et en fait, on voit quand même qu'on reste dans son cadre de référence, parce que On ne recherche pas forcément, je crois, de ce que j'en comprends, moi, un consensus. On recherche plutôt peut-être une majorité d'idées. C'est bien ce qu'on fait, nous, tous les jours, dans nos conseils municipaux, à l'Assemblée nationale ou ailleurs. Le consensus n'existe jamais, quasiment. Il y est toujours dans une recherche, en tout cas, d'une majorité pour pouvoir faire passer un certain nombre de projets. Donc là, d'une certaine manière, on réorganise un peu les choses de cette manière-là. Alors, il y a aussi, je crois, des gens un peu plus anarchiques qui, et là, je suis peut-être un peu plus sévère, mais ont une certaine perception de la société qui est désorganisée, à mon sens, et qui ne pourrait pas être viable, ne pourrait pas être pérenne, parce que la vie, c'est pas ça. C'est pas simplement parler, flâner, c'est aussi travailler, c'est aussi s'occuper de sa famille, c'est aussi s'occuper des autres, etc. Et j'ai pas ce sentiment-là, particulièrement dans ce mouvement où on palabre beaucoup, mais je ne sais pas où est l'efficacité, in fine. Et est-ce qu'il y a une recherche d'efficacité et une recherche d'objectifs ? Sûrement pas, d'ailleurs.
Alors, ce qui est intéressant, vous disiez justement que sur ces places, finalement, c'était un peu une reproduction des assemblées qui peuvent être celles des élus. Donc, finalement, de réorganiser un débat entre personnes variées autour de sujets... ça peut être parler d'urbanisme, de tout sujet. Et justement, ce qui peut interroger, c'est pourquoi en fait ces personnes, selon vous, avec votre regard d'élu, ont besoin d'aller réorganiser ce débat de société sur les places publiques, alors que finalement, il pourrait exister ou elle pourrait y participer par ailleurs dans vos comités de quartier, en assistant à un conseil municipal. Est-ce qu'on ne parle pas le même langage ?
Non, on ne parle pas tout à fait sûrement le même langage. Je pense que s'ils le font, c'est qu'ils en ont un besoin. C'est qu'ils ressentent qu'il y a une inefficacité de nos institutions. Mais que propose-t-il finalement ? Je ne suis pas certain que les choses soient bien organisées, bien comprises aussi du reste de la population, parce que c'est ça aussi, c'est vouloir construire quelque chose pour tous. Or, je n'ai pas ce sentiment d'ouverture vers d'autres visions sur celles qui existent, les conservateurs, on va dire ça comme ça, pour ceux qui sont déjà dans les institutions, et puis d'autres encore à côté de ce mouvement-là, qui eux, depuis de nombreuses années aussi, espèrent une sixième République, par exemple, et qui ne sont pas actuellement dans la rue, dans ce cadre-là. Donc, j'ai l'impression qu'on... Voilà,
vous restez observateur un peu sceptique.
Oui, c'est ça. Un certain scepticisme par rapport à cette organisation.
Luce Panin.
Je pense que nous avons un phénomène plus qu'un mouvement qui correspond à des besoins, à une aspiration. À une envie d'un autre monde. On pourrait dire c'est facile de dire ça, mais ça entre en résonance avec des choses qui se passent dans notre société. Tout à l'heure, on a parlé de l'idée de consommation. On a atteint un niveau de liberté. Enfin, jamais égalé. On a atteint un niveau, même si il y a des inégalités, etc., mais de matérialisme que les générations précédentes n'ont pas connu. On a atteint... Bon, bref, on est dans une situation où, finalement, c'est quoi le modèle de vie ? C'est quoi... qu'est-ce que sont les valeurs qui nous fondent ? Sont-elles vraiment, certains en parlent, mais est-ce que les responsables les font vivre vraiment ? On est dans une situation où, pour nous tous, le lien social se fonde autour de la laïcité et des valeurs de la République, Et en même temps, on a l'impression qu'on est arrivé au bout d'un cycle, comme si il y avait besoin, en toute laïcité, sans aucune interprétation religieuse, mais un besoin de spiritualité.
De redonner du sens, la spiritualité,
de recherche
du sens au projet.
Et je pense que Nuit Debout, au départ, s'est inscrit dans cette aspiration-là d'une élévation de l'âme, en quelque sorte. Et on ne peut que partager cette dimension-là. Et je le dis sans démagogie, parce que je serais capable de ne pas être d'accord sur un certain nombre de choses dans un débat. Mais nos générations aussi ont été porteuses de cette envie de transformer le mieux possible les choses dans la société, mais aussi d'être très sensible à un texte littéraire, à écouter de la poésie, à s'enivrer de musique. De la même manière, on peut ressentir ce qui relève d'émotions profondes et d'envie de partage. Et tout ça est parfaitement légitime. Et puis on peut le comprendre, et c'est à nous. Alors on nous dit on est arrivé au bout d'un cycle, peut-être qu'il n'y a pas assez finalement de créativité en termes littéraires, en termes de philosophie. Oui et non, parce que je pense que c'est peut-être mis un peu sous le boisseau, et que c'est pas l'éclairage médiatique qui met plus en valeur tout ça, parce que quand on regarde le nombre de prix Nobel que la France a obtenu, on s'aperçoit que oui, il y a quand même une vraie richesse de la pensée de nos intellectuels. Mais alors, peut-être qu'on ne sait pas le faire vivre suffisamment.
Et pour revenir justement à ce que vous disiez, que vous reconnaissiez une certaine légitimité dans une envie d'un autre monde, ou de réinterroger en tout cas le sens collectif de la société, quand vous en discutez avec d'autres députés, puisque vous êtes députée-maire Luspan, est-ce que cette perception elle est partagée ou elle est minoritaire? Alors j'imagine que vous avez plus l'occasion sans doute de discuter avec des députés qui sont de votre obédience politique, mais mon objectif, c'est pas que le débat soit un débat politicien, mais voilà, est-ce que ça peut être partagé par d'autres députés?
Moi, je crois que cette dimension-là, je dirais, alors quand j'avais 16 ans, moi j'aimais beaucoup la chanson Les cœurs purs de Jean-Roger Cossimon. Cette dimension de la pureté, c'est une aspiration qui est en chacun d'entre nous. Maintenant, moi je connais pas bien Nuit Debout, vous m'avez demandé le regard que je porte,
oui,
je vous donne le regard, peut-être que je me trompe complètement. Ce que j'ai compris aussi, c'est que dans la vie il faut pas être naïf, les rapports de force ça existe, et que cette expression-là, il peut y avoir des tentatives de récupération de ce mouvement, et que, par exemple, les formes de violence qui s'expriment sur l'espace public, pour moi, et pour nous tous, démocrates, c'est une horreur. Et là encore, on échangeait tout à l'heure avec Pascal, on disait même si chacun a sa culture un peu différente, puisqu'on n'appartient pas aux mêmes formations politiques, l'espace de la rue, ça nous parle quand même, à l'un comme à l'autre, et on se disait que jamais on serait passé à l'acte en termes de violence, et que là-dessus il faut qu'on soit ferme et qu'on dise non. Et je pense que les gens qui ont initié un peu Nuit Debout ne doivent pas se retrouver par rapport ils doivent se sentir dépossédés de quelque chose qui les interpelle. Avec mes collègues députés, j'avoue qu'on n'en a pas beaucoup parlé, mais cette idée là aussi de faire vivre sûrement plus d'émotions, plus d'élévation de l'âme à travers un projet de vie collective, oui, je crois que plus. Alors après, j'en sais rien, moi, combien peuvent être sensibles à ça, mais il y a sûrement d'autres députés que moi qui y sont sensibles.
Alors, il est déjà 20h56, le temps passe toujours trop vite dans ton livre. Juste une dernière question pour vous deux, Pascal Houbron et Luspan. Si vous deviez vous projeter dans l'avenir, de quoi avez-vous envie pour la vie démocratique française? C'est sympa pour la question hein, à laquelle il faut répondre comme ça, en une phrase.
En deux minutes.
En deux minutes.
Et puis en plus, oui. oui, c'est difficile de répondre à cette question. Comme je me sens humaniste. Tout à l'heure, c'était peut-être un petit point de divergence avec Luspan qui disait maintenant on est dans une grande liberté, etc. Je ne suis pas sûr qu'on soit dans une grande liberté, en fait. Il y a un certain paradoxe. C'est vrai qu'on peut circuler autant qu'on veut, on peut sûrement faire beaucoup de choses en semble-t-il, toute liberté, mais les nouveaux usages, les nouvelles technologies, etc., montrent que finalement on est peut-être un peu trop cadré et qu'il faudrait libérer un peu tout ça. Chacun doit se sentir responsable de lui-même, de sa famille, des autres, etc. Donc je pense que ce que j'aimerais, moi, c'est que la société s'ouvre plus, qu'elle soit plus respectueuse, plus tolérante des autres, et puisse, pour le coup, vivre avec une plus grande liberté, et une liberté d'esprit, accepter la contradiction, accepter que l'autre ne pense pas tout à fait comme vous, voilà, accepter tout cela, et puis construire sa propre vie, son propre tracé, sans avoir autant de normes, de règlements, de choses qui contraint dans la vie, même si on en a la nécessité, parce qu'on vit en société, sinon... Mmh.
Donc je retiens liberté, voilà. Donc, plus ouverture, de liberté, tolérance, voilà. Et respect.
Exactement.
Luspan.
Eh bien, pour y parvenir, moi je trouve qu'on devrait changer de paradigme, y compris dans l'éducation nationale, mais dans notre culture française, c'est de promouvoir une éducation toujours valorisante et positive. Un peu comme le modèle finlandais, où un enfant, quand il réussit, on le complimente, et quand il ne réussit pas, on ne le dit pas devant les autres, on le prend à part et on l'aide à réussir ce qu'il n'a pas compris. Et ça, si on inculquait ça dans notre société française dès le départ, nous serions beaucoup plus positifs les uns et les autres. Et il ne s'agit pas d'être irresponsable, hein. On répare si on n'a pas réussi quelque chose, mais on a une vision positive à la fois de soi-même, des autres et des projets collectifs qu'on peut mener. Et je crois que c'est un des fondamentaux de notre société pour aborder tous les temps qui viennent. D'avoir les bons outils moraux, psychologiques, sociologiques et collectifs.
Donc très très beau chantier à ouvrir pour plus de positif dans la société française. Emmanuel, un petit...
Non, je m'inquiète, si on n'a pas ça, on est mal sorti, mal parti quoi. On ne voit pas bien la société aller dans ce sens-là quand même, si vous la sentez.
Alors, vous venez de faire la démonstration.
Oui, je sais. Je suis confronté à ça.
Culturel et qui.
Oui, mais entre le nouveau paradigme et puis ce qui se passe réellement et toutes les discussions qui sont. Aussi, je vis dans cette société-là. Je la pratique tous les jours. Je sors de l'école avant de venir là, parce que je suis enseignant le lundi, et je vois bien tout ce qui a été inculqué. Je ne sais pas si c'était inculqué le verbe que vous vouliez vraiment employer, mais je vois bien tout ce qu'on a inculqué, qui est le contraire absolu de la liberté. C'est-à-dire que les gens sont emprisonnés dans une sorte de misère intellectuelle et une misère réelle qui ne leur permet absolument pas de se sentir libre ou de se sentir responsable dans la société.
Ben, c'est tout le sens de notre engagement, Luce.
Je ne suis pas à cet avis-là.
En tout cas, ça mériterait ça mérite que ton livre continue à parler de démocratie. C'est déjà
richesse.
Fini. On se quitte, il est 20h. Merci beaucoup Luspan, merci beaucoup Pascal Houbron,
merci
Emmanuel. Merci. Passez une très bonne soirée.